Je suis en compagnie de Miguel Benassayag. Bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez vous. Nous parlons de Clinique du mal-être, la psy face aux nouvelles souffrances psychiques aux éditions La Découverte. Vous dressez ce constat, Miguel Benassayag. Nous traversons aujourd'hui une crise profonde que d'aucuns nomment crise de la modernité, au sens où elle implique le déclin d'une figure autrefois puissante et devenue impuissante, celle de la personne humaine. Quel sens peut avoir une clinique qui ne s'adresse plus à l'homme de la modernité? Cette question, vous la posez.
Absolument, oui. Au fait, en tant que clinicien, j'ai quand même 30 ans de métier. J'ai constaté, comme pas mal de mes collègues, qu'il y a une sorte de changement dans la pathologie, dans les modes de souffrance, qui tiennent, et voilà l'hypothèse, non pas quelque chose qui mériterait ou aurait besoin d'un changement de cartographie, pour dire comme ça, mais qui a un véritable changement de territoire. C'est-à-dire que les gens avec lesquels on a affaire, nos contemporains, nous-mêmes, connaissent des phénomènes de changement qui vraiment sont des changements très profonds dans leur mode d'existence, rapport au monde, rapport à eux-mêmes, non? Alors, effectivement, ce qu'on appelle l'homme de l'humanisme, l'homme de la modernité, n'est pas l'espèce humaine en tant que telle. L'espèce humaine, dans son articulation avec la culture, a depuis toujours structuré différents modes d'existence culturelle, subjective, etc., qui sont, je ne sais pas, grosso modo, les totémismes, l'animisme, les naturalismes et les nôtres, n'est-ce pas, l'analogisme. Bon. Ces modes de rapport qui sont très divers dans chacune de cette classification, il y a beaucoup de diversité, mais c'est pour dire que ce qu'on appelle l'homme de l'humanisme n'est pas du tout une vérité métaphysique immuable de l'espèce humaine en soi. L'homme, ce qu'on appelle l'homme, effectivement, est une composition anthropologique historique qui émerge petit à petit à partir de l'an 1000, n'est-ce pas, avec des changements économiques, philosophiques, des modes de production. Les figures quand même tutélaires, les plus claires, ça serait Abélard, Héloïse, n'est-ce pas, avec la naissance de l'individu, hein, qui, comme il était accusé lui-même Abélard dans les procès qu'a fait l'Inquisition contre lui, on disait il veut voir sans voile, n'est-ce pas? Cet homme qui veut voir sans voile, qui conteste les autorités transcendantes en évoquant la réalité d'une immanence légitime, non? C'est-à-dire, j'existe, il y a un jeu qui existe. Cet homme-là qui naît avec une puissance incroyable du nominalisme, de la pensée scientifique plus tard, de la Renaissance, bien entendu. Cet homme-là, les noms hommes se prêtent à confusion parce qu'on croit que c'est l'homme, non? Mais on appelle homme à un dispositif historique, culturel, mode de production, rapport à soi, rapport au corps, mode de subjectivation, qui naît à un moment donné. Se développe, dégage une puissance fantastique et remplit un cycle, non? Et là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre peut-être avec le côté anthropologique de la chose, bien que ce soit passionnant. Là-dessus, le naturalisme qui est le mode d'existence de l'Occident, pourquoi? Parce que c'est la seule culture, le seul mode culturel qui a imaginé une séparation entre l'humain et la nature. Tous les autres modes culturels, d'existence, de subjectivation, ne font pas cette différenciation-là. L'homme face à la nature. Bon, c'est pourquoi ça s'appelle le naturalisme. Le naturalisme a une particularité par rapport aux autres grands blocs anthropologiques, donc animisme, totémisme, analogisme, c'est que les trois blocs, ils ont précédé l'homme, ils ont cohabité avec l'homme, et il perdure après les déclins de l'homme. Non? Alors, visiblement, il y a dans les modes, dans la société, dans la culture, qui est dans un véritable déclin et fin des cycles, non? Et il y a quelque chose de particulier parce qu'elle est la seule qui apparemment connaît une disparition. Apparemment, après il va falloir voir à la distance si est-ce que quelque chose de ce naturalisme perdure ou pas articulé avec les autres, non? Par là, il faut comprendre des choses très simples. On est tous animistes, c'est-à-dire on est tous animistes malgré qu'on soit moderne ou pas, parce qu'effectivement, on soupçonne ben voilà, la machine qui est là devant nous, dès qu'elle bogue 3 fois, on fait très attention de ne pas l'insulter, n'est-ce pas? On ne passe pas devant une échelle, aussi un chat noir, je ne sais rien, on est tous un peu animistes. Il y a des mots qu'on ne dit pas, on est tous un peu totémistes, on est tous un peu analogistes, c'est-à-dire que les modes de constitution de la subjectivité culturelle et individuelle ont toujours cohabité plus ou moins. Et voilà, alors c'est lui qui est en train de définir l'homme. Or, la psychanalyse était les modes de traiter la souffrance des individus dans cette culture-là. C'est-à-dire que dans le totémisme, l'animisme, l'analogisme, peu importe, dans les autres modes anthropologiques, si quelqu'un a une production que nous on appellerait délirante, ou si quelqu'un a des comportements, des risques dans lesquels il s'est détruit, eh bien, on va considérer à partir des grands blocs comme ça transsituationnels que, par exemple, que quelqu'un se fasse mal. Bon, après tout, c'est la manifestation individuelle et locale d'une invariante de la culture qui est le sacrifice. Or, dans l'humanisme, dans le modèle humain, homme, de l'Occident, on va parier, on va émettre l'hypothèse que la cause de ce qui nous arrive est endogène. La cause des maux qui nous arrivent et aussi la liberté d'agir est endogène. C'est-à-dire que je ne suis pas bougé par quelque chose, sauf si je suis esclave ou malade, et ce que je fais obéit, si je suis entre guillemets libre, à une volonté propre. Dans toutes les autres cultures, l'être humain apparaît à traversé par des tropismes, des désirs, des besoins qui ne sont pas endogènes. La modernité a besoin de mettre tout ça dans l'homme, non? De mettre tout ça dans l'homme. Alors pendant très longtemps, on a pensé que les hommes allaient devenir, comme dirait Kant, à l'âge de majorité, c'est-à-dire être guidés que par leur raison. C'était compliqué, hein, c'était compliqué, on s'est cassé le nez avec ce qu'on essayait d'évancer de l'homme, qui est le côté irrationnel, opulsionnel. Donc Freud fait une grande découverte, n'est-ce pas, qui, de mon point de vue, n'est pas une découverte, mais une construction culturelle, qui est de dire, ah voilà, l'être humain ne peut pas être tout à fait rationnel, ne peut pas arriver à l'âge de majorité comme le souhaitait Kant, parce qu'il y a aussi, mis à part le conscient qui veut le bien, etc., un inconscient et un ça. Donc l'homme de la modernité, voilà, c'est un effort pour mettre tout ce qui nous bouge dans une compréhension endogène. Aujourd'hui, cet homme-là est un échec, hein, bah, est un échec, est épuisé. Il y a quelque chose d'un dépassement de ça. Et en tant que clinicien, on est face à un double phénomène. On a des patients qui souffrent et à la fois, on a un agencement de l'humain envers lui-même dans le plus intime, qui ne correspond plus à l'homme de la modernité, soit kantien, soit freudien.
Vous écrivez que la conquête du terrain de la souffrance et de l'inquiétude par la pathologisation de la vie est devenue à la fin du XXe siècle l'une des causes majeures de l'affaiblissement des individus et des cultures.
Oui, alors donc, au fait, ce qui va se passer d'un point de vue culturel, entre culture dans le sens anthropologique, je veux dire, non? Ce qui va se passer, c'est que la fin de l'époque de l'homme implique une dislocation de cette figure historiquement construite. Alors, la dislocation, nous la constatons dans le quotidien de la clinique somatique ou psychique par un vécu envers soi-même, hein, d'être constitué par des modules, n'est-ce pas? C'est-à-dire que finalement, les gens viennent nous voir et ils disent voilà, j'ai tel module qui dysfonctionne. Donc, il y a une manifestation quotidienne de nos patients de cette perte d'antériorité, cet dépliement, cet devenir panoptique de l'homme nouveau, l'homme de la postmodernité, qui est un homme qui rejette toute antériorité, non? C'est-à-dire tout ce qui soit dedans est suspect, tout doit être montré, n'est-ce pas? C'est l'homme du blog, l'homme de Twitter, l'homme de Facebook, non? Qui désire être transparent envers lui-même et envers les autres. Articulé avec des pratiques d'une quotidiennité avec des machines, non, qui on considère d'une façon un peu naïve, un peu bête, qui augmente seulement nos capacités. À vrai dire, les machines digitales hybrident le vivant et modifient le vivant. C'est-à-dire que comme le dit Rousseau, avec les progrès, le problème c'est qu'on voit ce qu'on gagne, on ignore ce qu'on perd. N'est-ce pas? Alors, cet homme nouveau qu'on a devant nous est un homme qui, étant donné la plasticité cérébrale, les changements culturels, etc., est un homme qui, petit à petit, est en train d'être hybridé avec des machines digitales envers lesquels il y a une sorte de délégation des fonctions, une modification des modes de pensée, une simplification des niveaux de complexité. Alors, effectivement, quand un patient de nouveau type, pour dire comme ça, on lui propose de chercher les sens cachés, complexes de sa souffrance, on se trouve avec quelqu'un qui dit, mais je n'ai aucun sens caché, complexe de ma souffrance. Moi, ma souffrance n'est pas. Donc, une faille constituante est une défaillance technique que vous devez corriger. Et là, ça pose un problème pour les cliniciens.
C'est ce que vous appelez l'homme modulaire. L'homme modulaire, je vous cite, est une façon de nommer le nouveau dispositif humain qui ne se pense ni ne se structure comme un tout organique, mais comme un agrégat, une construction prétendument vouée à une vie sans limite. Or, les nouvelles thérapies sont appropriées à cette illusion d'augmentation de l'humain, mélange paradoxal entre la puissance incroyable de la technique et l'impuissance chaque fois grandissante de l'homme.
Oui, c'était quand même un mérite de la psychanalyse que je critique beaucoup par ailleurs, qui est d'incorporer d'une façon un peu, bon, disons, bricolée, la pulsion des morts. Non? Alors, elle est incorporée d'une façon bricolée, mais c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que ce que l'homme de la postmodernité ne peut plus concevoir, c'est les besoins des limites, les besoins d'une négativité comme incorporé organiquement en tout. Moi, je travaille beaucoup dans l'interface épistémologie-biologie. Non? Quand on dit à quelqu'un, comme dit Laurent Alexandre, ce médecin biologiste très connu qui écrit Vaincre la mort, et trucs comme ça, non? Quand on parle avec lui, moi, je suis arrivé de le trouver dans des controverses publiques comme ça. Quand on dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu proposes? Alors il dit, moi ce que je propose, c'est qu'on puisse vivre 1000 ans au moins et qu'on puisse avoir la sexualité qu'on veut grâce à des modifications artefactuelles. Donc il propose un tout est possible sans limite. Alors le problème, c'est que nos quotidiens, quand on leur propose comme ça quelque chose de si fantastique, c'est-à-dire. Finalement, c'est le rêve platonicien et monothéiste, non? Lâcher les corps corruptibles pour aller vers, dans ces cas-ci, ce serait d'aller vers les disques durs, hein, recueillir toute de l'information qu'il y a Jean-Pierre dans sa tête, les mettre dans un disque dur et Jean-Pierre continue à vivre. Quand on propose ça, on est en train de proposer quelque chose qui, d'un côté, il est très bête et d'autre côté, il est très fort, parce que ça renouvelle la promesse de la transcendance et renouvelle la haine platonicienne du corps. C'est-à-dire, le corps, il est corruptible, il faut vivre dans un autre niveau. Bon, quand cet homme postmoderne, qu'on le promet, de pas souffrir, de pas vieillir, de pas être faible, de pas être fatigué. Quand on leur dit, mais peut-être il y a dans la faiblesse, dans le vieillissement, dans la limitation, dans la fragilité et dans la mort, quelque chose de fondamental pour nous, il dit, mais tu es fou. Ou tu es fou, ou tu es un fanatique religieux, n'est-ce pas? Or, c'est vrai que tout le problème aujourd'hui, c'est que on est face à une société très idéologisée, hein, très polarisée, avec une pensée très simpliste, qui pense que plus c'est mieux. Or, la vérité, c'est que si moi je me dis, est-ce que je vais vivre, je sais pas, encore 100 ans? C'est vrai qu'une partie de moi désire fortement vivre encore 100 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'autres parties de moi désirent aussi lâcher prise. Et ces parties-là sont aujourd'hui éclipsées. C'est-à-dire qu'on croit simplement que est organique m'appartient seulement un désir linéaire et simpliste d'augmentation. La NASA, par exemple, fait des études depuis une dizaine d'années pour essayer de réduire le temps de sommeil. N'est-ce pas? Alors, on voit bien réduire le temps de sommeil, arriver à avoir des érections toute la vie, vivre plus longtemps. Bon, ces plus entraînent quand même une perte des limites qui implique une perte de sens. Alors, pour les patients aujourd'hui, la thérapie fonctionne en deux étapes, on pourrait dire, comme une fusée à deux étapes. Il y a une première étape qui est une étape dans laquelle, pour arriver à s'occuper de la souffrance du patient, il faut quand même déjà faire tout un travail préalable, que les patients veulent ou pas, après, d'acceptation de la fragilité comme condition existentielle de l'homme, de l'être humain. Non? Parce que si le patient, il vient et il pense que tout ce qu'il veut, c'est être augmenté, qu'on les corrige les défaillances, alors, effectivement, ce qu'il demande, c'est quelque chose avec lesquels on peut être d'accord ou pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, aujourd'hui pour aujourd'hui, il y a comme une sorte de travail d'aller contre l'air du temps dans la thérapie, qui implique d'inviter notre patient à accepter quelque chose à contre-courant, effectivement, qui est de dire, non, mais il y a certainement chez toi un tropisme très fort pour vivre plus, mais essayons de voir tes tropismes aussi, de vivre moins. Il y a un tropisme que vous voudrez être tout le temps éveillé, mais essayons d'accepter et d'être en amitié avec le tropisme qui veut que tu dors. Non? Ou par exemple, on est dans une société très brutale dans laquelle il y a des vieux, mais pas d'anciens. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que personne ne trouve aujourd'hui dans notre société qu'il y ait des puissances nouvelles à explorer quand on vieillit. Et on devient donc un ancien. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, dans la thérapie, il faut quand même pouvoir articuler ces deux choses-là, c'est-à-dire la plainte pour laquelle vient le patient, c'est-à-dire je souffre de telle phobie, de tel truc, bon, peu importe, hein, telle dépression, pouvoir articuler ça avec un travail qui sera un travail un peu philosophique, quelque part, mais de philosophie pratique, de savoir à qui, avec qui on va travailler. Est-ce que je vais travailler avec toi, ensemble de modules ajoutables à l'infini, duquel, par rapport auquel toute défaillance est à bannir, ou est-ce que je vais travailler avec quelqu'un qui n'est pas forcément un homme de la modernité, mais est une singularité dans le sens de Spinoza, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une unité organique, limitée, qui parce qu'elle est limitée a du sens, etc. Ou est-ce que je vais travailler avec ça? Non? Et alors, effectivement, le travail, en réalité, il est double en permanence. Non? Mais je crois que le grand défi pour les cliniciens est celui-là, y compris les médecins somaticiens. Hein, c'est-à-dire, est-ce que je vais recevoir un tas de modules que je traite par profilage quantitatif modulaire, ou est-ce que je peux faire une médecine du diagnostic?
Parce que dans les thérapeutes, enfin chez les thérapeutes modulaires, ça peut entraîner aussi de la part du patient une passivité pathologique.
De toute façon, ils sont dans la passivité parce que l'augmentation des modules est quelque chose qu'on subit toujours passivement en abandonnant toute intériorité désirante. C'est-à-dire que si on veut vivre de façon modulaire, on ne peut pas avoir voilà, le beurre, l'argent du beurre. Si on veut, si vraiment on a une tendance très forte, modulaire, il y a quelque chose de soi qui doit passer à la caisse, hein, qui est du côté du sens, du côté du tragique, du côté de la profondeur, n'est-ce pas? Et alors, c'est là où c'est une thérapie et pas simplement de la philosophie. Ou bien c'est une thérapie dans le sens où, bon, Philon d'Alexandrie nommait les thérapeutes, non, qui mélangeaient la philosophie. Pourquoi? Parce que il s'avère que on doit quelqu'un arrive avec une dépression, une phobie. Eh ben nous on dit ben, une minute, on va essayer quand même de comprendre ensemble quelque chose de la fragilité. Parce que si tu ne piges pas ça, tu partiras avec ces modules modifiés, mais ces modules modifiés, tout ce qui est augmenté de l'extérieur passivement diminue la puissance de l'être, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est là où il y a le côté un peu faustien de la chose, non? Toute augmentation extérieure diminue la puissance interne.
Ce que vous constatez aussi, Miguel Benassayac, dans votre pratique, c'est qu'il y a une perte du tragique, que l'homme actuel dans nos sociétés occidentales est privé de toute dimension tragique, ce que vous écrivez, que les nouvelles qu'il reçoit du monde le plongent dans l'impuissance. Et ce vécu d'impuissance est un élément central de la souffrance psychique contemporaine.
Oui, par tragique, j'évoque donc le tragique grec, comme on dirait. Le sens du tragique est le sens du lien. Du lien, donc, que tant que je le vis passivement, c'est une chaîne. Tant que je le vis de façon active, c'est un lien. Non, c'est-à-dire que la différence est... c'est-à-dire que les gens pensent que pour être libre, il faut casser les chaînes. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème, vraiment, c'est comment je peux comprendre et interpréter théoriquement et pratiquement ce que je vis comme des chaînes, comme des liens, n'est-ce pas? Alors, le tragique, c'est ça. Le tragique, c'est la conscience, la compréhension plus que la conscience à un moment donné, dès que on est lié, qu'on est dans une concaténation qu'elle ne connaît pas en termes concrets. N'est-ce pas? Comme écrit Plotin, il dit « Je ne peux jamais dire concrètement, jusqu'ici c'est moi ». Alors la concaténation, je donne des exemples comme ça, qui sont des exemples un peu pour être clair, non? C'est vrai que, je ne sais pas, si on parle de la Shoah, par exemple, juif, pas juif, qui que ce soit, apparemment même les fascistes, et ils disent « la Shoah les touche ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être juif ou juif déporté pour être touché par la Shoah. Pourquoi? Parce que la Shoah, effectivement, interpellé à tout le monde dans son être en tant qu'être humain. C'est pas bon. Après la Shoah, il y a eu le Rwanda, et avant il y a eu quand même le Holocauste, le génocide cambodgien. Et on voit bien comment il y a une perte du tragique terrible, parce que tout à coup, quand on arrive au génocide rwandais, on arrive à une très mauvaise nouvelle. Non, on n'arrive plus à quelque chose auquel on se sent lié, interpellé, que ma vie c'est avant et après, n'est-ce pas? Quand on dit mais comment faire de la poésie, penser, aimer après la Shoah, après donc on a découvert non pas que le peuple allemand pouvait être barbare, mais que l'être humain pouvait être porteur d'une barbarie terrible et une barbarie en plus terrible parce que c'est une barbarie articulée avec la rationalité, non? C'est-à-dire là, bon, donc là il y a un avant et un après. Et on voit bien comment il y a une perte de lien, comment il y a une sérialisation de l'être humain qui fait que notre surface d'affection est perdue. C'est-à-dire que je ne suis pas affecté de la même façon, ça ne me traverse pas jusqu'au cœur les mêmes types de nouvelles, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une question de que parce qu'ici on a tué des Juifs, là-bas des Cambodgiens, ici des Rwandais. C'est parce que notre monde est en train de sérialiser l'être humain à tel point que effectivement Il y a des choses qui sont graves, alors on considère que c'est très grave, mais les graves, c'est pas pareil que le tragique. Non? Le tragique, c'est quelque chose qui me convoque, qui me touche, qui me convoque, qui a un avant et un après. Le grave, c'est quelque chose que tant que ça m'arrive pas à moi, eh bien ce n'est pas grave. Non? Ou c'est grave, mais bon, ça me traverse pas. Alors, dans la thérapie, on voit ça, on voit cette perte des liens, on voit comment nos contemporains, petit à petit, vont, les liens s'estompent, comme si, oui, se perdent comme ça. Et voilà, on sent que tout lien est simplement une chaîne de laquelle il faut se débarrasser. Et c'est terrible, effectivement, c'est terrible.
C'est ce que vous écrivez, Miguel Benassaïeh, pour continuer sur cette thématique. Un changement notable s'est opéré dans la demande du patient. Celle-ci dérive d'une demande avec articulation tragique vers une consultation sérialisante où le patient parle de ce qui lui semble seulement grave pour lui.
Oui, et ça on les voit de deux côtés, des côtés cliniciens comme des côtés patients. Des côtés cliniciens, il faut voir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était les discours autour de Freud, de Reich, Marcus, l'école de Francfort, c'est-à-dire toute une discussion très profonde sur la nature humaine, etc. Et des côtés des patients, pareil, c'est-à-dire quand quelqu'un allait chez un psychanalyste, il allait certes parler des papas-mamas, mais il y avait un lien direct envers le monde de l'histoire. Aujourd'hui, de deux côtés, quand quelqu'un vient parler, il vient juste parler de sa petite histoire, de sa toute petite histoire personnelle. C'est-à-dire que c'est une pratique quotidienne dans ma clinique de voir comment, aussitôt, j'essaie d'établir une tangente dans laquelle on peut dire, mais ce qui vous arrive, ça arrive, ça arrive aux humains. Non, les patients s'emmerdent, ils s'ennuient quoi. C'est-à-dire que bon, il dit bon, Benazayag, il est un peu philosophe, d'accord, un peu comme d'accord, c'est une réflexion. Mais c'est très compliqué d'arriver au point dans lequel les patients, ils comprennent que ce dont il est en train de parler ne regarde pas la petite arrière-boutique, la petite histoire personnelle, les sales petits secrets comme disait Deleuze, mais que est en train de parler de quelque chose de fondamental. Ça, on peut le voir dans des trucs, par exemple, si arrive une femme qui est dans un rapport violent avec son compagnon qui la tape, l'agresse. La personne, la femme bon, qui souffre de violences conjugales, il y a deux possibilités. Une, pensez ça comme une histoire qui arrive à elle, Marie avec Pierre. Non? Alors, voilà, moi, Marie, il me tape, comment je fais pour qu'il me tape, je vois. Et l'autre possibilité qui est la mienne, c'est de dire, mais tu es Marie jusqu'à un certain point, parce que toi, tu es une femme. Et dans cette scène-là, comme dirait Freud, on tape une femme. Non? On tape une femme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de s'en foutre, de négocier, elle n'a pas tous les droits. Pourquoi? Parce que pas seulement Pierre tape Marie dans une sorte de déliaison radicale, un homme tape une femme. N'est-ce pas? Moi, je me souviens quelque chose qui s'est passé ici en France, c'était fantastique. Il y a eu un truc dans le sadisme humain qui n'a pas de limite. Il y avait un jeu il y a une vingtaine d'années qui était le lancement des nains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà. Il attachait comme ça en boule un nain et on le balançait. Alors, effectivement, il y a eu une interdiction de ça, mais ça durait quand même quelques temps, mais une interdiction. Et un nain, il a porté plainte. Il a dit, non, moi, j'ai gagné ma vie comme ça, je me sentais pas maltraité, voilà. Il a porté plainte. Et le juge, miracle que parfois les choses tournaient bien, heureusement, il a dit, mais monsieur, c'est pas à vous de décider sur la dignité humaine. Comment dire que il le dit au nain. Mais toi, tu n'es pas un nain plus un nain plus un nain, c'est-à-dire la sérialisation. Toi, peut-être pour toi, dans ta tête un peu idiote, ça ne te dérange pas qu'on lance les nains. Mais même s'il s'agit de toi, toi, ce n'est pas à toi de décider la dignité humaine. À moi, il me semble que ce sont des dimensions thérapeutiques fondamentales à retrouver et à reconstruire quand elles sont détruites. C'est-à-dire qu'une femme se rend compte que, d'accord, il y a sa grand-mère, sa mère, son père, qui sont son histoire personnelle. Il y a Pierre qui tape Marie. Donc il y a cette dimension-là. Mais il est fondamental aussi pouvoir reconstruire des liens du tragique, non, dans lesquels on dit, oui, d'accord, il y a toute ton histoire personnelle pour laquelle on te tape et tu vis dans ces situations comme ça, mais tu es aussi une femme et en tant que femme, tu n'as pas le droit de décider si on peut te taper ou pas. Bon, ce type de dimension comme ça, bien entendu, je ne fais pas des discours de philosophie à mes patients, mais découvrir ce que moi j'appelle, pour le nommer comme ça, une géographie intérieure, non, une géographie des dedans, découvrir de quoi on est fait. Et découvrir de quoi on est fait en dépassant les sales petits secrets. Découvrir de quoi on est fait. Dans ce sens-là, dans les dimensions du tragique, du lien, de l'histoire, non?
Alors, arrivons-en à votre pratique de psychologue, Mickaël Ben Assayag. Toute une partie de votre deuxième partie de votre livre clinique du mal-être, vous exposez ce qu'est la thérapie situationnelle. La thérapie situationnelle fait l'hypothèse que l'ordre et l'action émanent de la situation plutôt que de l'individu. Le travail psy-situationnel est donc articulé à une philosophie pratique d'accompagnement du patient, à savoir une contextualisation des différentes dimensions de sa vie, voire une dépersonnalisation de celle-ci au profit d'une ouverture aux situations auxquelles il participe.
Oui, la thérapie situationnelle, telle comme bon, je l'appelais pas comme ça depuis une quinzaine d'années, est en ligne directe de la psychanalyse existentielle, phénoménologique, et avec tous les passages par les expériences sociales. J'ai dédié ces bouquins à David Cooper, n'est-ce pas? Il part de l'hypothèse de la discontinuité de l'individu. C'est-à-dire que l'individu n'est pas une unité transcendante, toujours égale à elle-même, au-delà des situations. Au contraire, il s'agit de trouver, de retrouver la multiplicité agencée qui nous constitue à chacun de nous et qui est agencée et articulée avec d'autres éléments de la situation, pas seulement des humains. Et que l'essence de ce qui nous arrive, donc comme dans l'exemple de on bat une femme, des choses comme ça, comme le nain, l'essence de ce qui nous arrive n'est pas endogène. C'est-à-dire que l'histoire personnelle est un élément de plus d'un large et profond soubassement d'où émerge l'essence de la situation. Dans cette discontinuité, il y a un défi. Il y a un défi qui est celui de pouvoir être du côté du devenir et non pas du côté de l'identité. Parce qu'effectivement, être du côté de l'identité fixe, hein, signifie, bon, moi, Jean-Pierre, je suis Jean-Pierre dans telle situation, dans notre situation, dans notre situation, il faut que je comprenne tout d'une façon égocentrée. Non. Alors, il y a un moment d'allocentré, non? Qui exige quand même qu'on puisse dépersonnaliser, c'est-à-dire pouvoir comprendre que l'essence de ce que nous vivons, il n'est pas donné ni exactement par notre histoire, ni par ce que notre conscience peut comprendre, mais par les situations qu'on traverse, en créant dans l'histoire de chacun une sorte de discontinuité paradoxale. Hein, c'est-à-dire que c'est bien ça, disons, quelque chose qui a à voir avec une essence, pas essentialisme, une essence de l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, notre identité à nous-mêmes, c'est-à-dire cette capacité très étonnante, même d'un point de vue neurophysiologique, d'être soi-même malgré que tout a changé, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un être soi-même sous condition de ces changements permanents. Et notre société, elle a beaucoup du mal avec ça. Notre culture a beaucoup du mal avec ses identités dans les devenirs et dans les changements. La thérapie situationnelle essaye de comprendre, donc petit à petit avec les patients, on essaye de comprendre les situations, non? En décentrant un tout petit peu l'illusion de Je fais ça parce que je suis moi. Non.
La thérapie situationnelle a la vocation d'aider le patient en souffrance à s'émanciper, non pour qu'il devienne lui-même, mais pour qu'il puisse, en oubliant les pièges de son individualité, être de plus en plus présent dans les situations où il est impliqué.
Oui, la vérité c'est que Mallory, non, Jean Mallory, bon, voilà, on a copiné pendant qu'il était dans la cheminée un peu ensemble, il m'a montré une fois un dialogue qu'il avait eu avec un Inuit, qu'il m'a dit, tiens, c'est ce que tu dis, non? Et l'Inuit, il disait, plus je me sens individu, moi j'existe. Non, c'était une traduction. Bon. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus on est dans une préoccupation de mais qui je suis, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, moins on habite la situation qui nous constitue, qui nous traverse. Alors effectivement, il y a un équilibre instable entre le fait de que oui, de que Jean-Pierre n'est pas Jean-Paul, mais à la fois cet équilibre instable qui dit qu'il y a des individus doit s'articuler avec le fait de que l'individu n'existe que dans des situations où il peut exister plus, il peut déployer plus sa puissance d'agir, de penser, d'aimer, de créer, dans la mesure où il peut le mieux s'oublier, non? S'oublier. Hein? Alors, il y a comme une incompatibilité, hein? C'est une incompatibilité, mais cette incompatibilité est le drame existentiel lui-même, non? C'est-à-dire qu'on ne peut pas 100% s'oublier, non? Et on ne peut pas 100% penser à soi. Dans ces entre-deux, la pathologie, elle est toujours du côté de trop penser à soi, trop penser à ses failles, à sa souffrance, à... non. Alors la thérapie situationnelle, effectivement, essaye d'aider les gens à se désolidariser de cette identification à soi pour pouvoir tout bêtement avoir le courage de vivre. Là-dessus, c'est en ligne directe avec ce fameux passage de Spinoza où il dit « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort ». Effectivement, c'est-à-dire la mort, ça serait cette pensée à Heideggerienne d'ailleurs qui nous individualise, moi, seul face à la mort. Je vois. La vérité, c'est que dans la vie, on n'est pas seul du tout. On n'est jamais seul dans la vie. Même si physiquement, on est seul, la solitude est justement cette fabrication. Avec, quand on cède à la peur, non? Cette fabrication d'une finitude qui explique tout. Or, la vérité, c'est que l'être pour la mort, c'est justement un être de la soumission. Parce que l'être humain, plus il assume les situations comme si la mort ne le préoccupait pas, plus il vit. N'est-ce pas? Et alors bon, là c'est pas une question de mort, là c'est une question de penser à quand on était petit, ou à tous ces souvenirs qu'on évoque en permanence pour justifier pourquoi on n'assume pas la situation. C'est-à-dire que les névrosés font ça, les névrosés en permanence évoquent des situations inchangeables qui expliquent toute situation. Et les psychotiques, malgré lui, aussi, il a du mal à pouvoir vivre sa dissociation dans la situation. Dans les deux cas, la thérapie situationnelle permet d'arriver à vivre dans des situations discontinues.
Prenons un exemple concret, exemple dans votre livre, Miguel Benassayag, c'est l'exemple de Laura, qui est dans une période difficile. Il y a beaucoup de silence dans la thérapie que vous menez avec elle, elle a 35 ans. Elle évoque une atmosphère de violence familiale dans son enfance. Elle a du mal à s'épanouir, enfin, elle ne s'épanouit absolument pas. Vous arrivez à trouver une solution avec elle, elle vous parle de danse, elle va voir à un moment donné un spectacle de danse contemporaine, elle a pas une illumination, mais il se passe quelque chose. Et elle va mener cette activité, elle va prendre des cours de danse, ça va lui faire sans doute une raison de vivre. Et votre réaction, ce que vous racontez, c'est que c'est de non plus d'essayer de résoudre ses problèmes, mais de lui faire oublier par vous intéresser vous aussi à la danse pour essayer de lui trouver des cours de danse qui vont réussir à l'épanouir. Et ça fonctionne.
Oui, parce que
qu'est-ce qui s'est passé avec Laura?
Celle que j'ai nommée Laura, au fait, nous pouvons dire que les problèmes qu'elle avait dans la vie, les problèmes qui l'empêchaient de s'épanouir, à la limite, ils restent inchangés, font partie de la donne. Mais l'objectif, là, c'était de déployer d'autres dimensions qu'il y avait aussi chez elle. Dans cette rencontre avec la danse, elle rencontre de façon inopinée, hop, une dimension qu'elle avait en elle. Elle dit, ah, mais j'ai aussi cette dimension. Et alors, la thérapie va viser plutôt au déploiement d'une multidimensionnalité de la personne qu'à se centrer sur les dimensions pathologiques. Non? Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est, comme toujours chez Spinoza, c'est une question quantitative. Non? Ce n'est pas qu'on va dépasser ces bobos, mais les bobos prendront moins de place parce que du coup, on est dans d'autres dimensions. Alors, c'est vrai après que la vie des personnes étant concaténée très étroitement, si quelqu'un tout à coup peut ne pas être que quelqu'un de mélancolique, dépressif, mais est mélancolique, dépressif, mais à la fois danseuse, à la fois chercheuse, à la fois. Donc, bah, du coup, effectivement, par déviation, c'est-à-dire justement en cherchant paradoxalement ailleurs, qu'est-ce que tu peux être d'autre? Mais qu'est-ce que tu peux être d'autre que dépressif? Bon, dépressif est un fait, d'accord, et tu dois avoir des raisons. Mais qu'est-ce que tu peux être d'autre, non, que dépressif? Ça, à la fois, effectivement, est très important. Hein, c'est-à-dire, c'est un tout petit peu l'idée de désaturer les situations. Hein, désaturer les situations. C'est-à-dire que dans les cas de cette jeune femme, ce qu'elle avait vécu dans son enfance, vraiment saturer toute situation. Toute situation. Et là, nous ne pouvons pas être dupes de dire, effectivement, elle a souffert un truc qui est tellement horrible que pour toute la vie, ça reste comme ça. N'est-ce pas? Ça, c'est une production pathologique de dire, j'ai souffert un truc tellement horrible que toute ma vie ne va tourner autour que de ça. Ça, c'est une construction. Alors, le trauma, la souffrance restent réels, mais on défait cette construction qui sature l'ensemble des dimensions autour de la dimension pathologique, non?
Ouais, vous écrivez, Miguel Benassaya, que la thérapie situationnelle pose qu'un événement du passé, aussi fort et traumatisant soit-il, constitue toujours un élément du soubassement de la situation actuelle, et non la résultante qui donne le sens à la situation. Et vous continuez en écrivant, une phobie ou un souvenir douloureux ne sont donc jamais à éliminer ou à effacer. L'objectif est de les sortir du point d'équilibre pathologique où le patient les avait mis pour les réinscrire dans une multiplicité propre à la puissance.
Oui, là c'est drôle parce que c'est, je me permets une petite parenthèse personnelle, non? Mais il s'avère que à moi ça me fait un peu bon rire, je sais pas, c'est bon, gentiment. C'est vrai que de par mon histoire, effectivement, quand même, bon, voilà, j'ai connu la torture, la prison sous la dictature pendant 4 ans, des trucs, bon. Et moi, je connais un tas de copines et de copains qui sont comme moi survécu en ayant passé des choses comme ça. Et qu'ils écrasent leurs compagnons, leur milieu, tous, non? En disant, mais t'imagines, j'étais torturé, j'étais en taule tant d'années. Alors tout le monde écrase, quoi. Il accepte tous les caprices. Parce que, effectivement, c'est tellement impressionnant de penser quelqu'un qui a vécu ces choses-là, que tout le monde est d'accord, et la personne la première, non? Pour dire, tu dois accepter tout de moi parce que j'ai souffert. Et à un niveau personnel, c'est vrai que c'était quelque chose que ça m'avait beaucoup marqué parce que très tôt, heureusement pour moi, je me suis rendu compte que si on fait ça, on fait que ce qu'on a vraiment fait devient un mensonge. Ce qu'on a vraiment vécu devient un mensonge. C'est-à-dire que si moi, par exemple, moi, effectivement, c'est-à-dire mes années de résistance contre la dictature, la torture, la prison, sont des trucs archi-fondateurs pour moi, archi-fondateurs très importants. C'est presque, je ne dirais pas quotidiennement, mais il n'y a pas une semaine dans laquelle, en tant que chercheur, clinicien, père, je ne puisse pas, de cette expérience si intense, un enseignement utile. Donc c'est très important. Mais si J'ai produit la croyance en moi et dans les autres dès que toute ma vie, depuis donc 30 ans, reste structurée par ça, il s'avère que je fais mentir une vérité. Non, je vais mentir une vérité. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai vécu ça, mais ce n'est absolument pas vrai que parce que j'ai vécu ça, je peux me permettre tous les caprices, ou la dépression, ou si je vais me suicider. Même si quelqu'un, je n'ai jamais été d'accord quand on a dit les camps ont rattrapé Primo Levi. Non, je ne pense pas. Primo Levi s'est suicidé à un moment donné pour des raisons qu'à ce moment donné, lui étaient intimes, propres et respectables. Mais les camps ne te rattrapent pas. Et aucun traumatisme te rattrape. C'est-à-dire, il y a une production absolument artificielle qui se tourne autour de cette vérité qui sature tout. Et je répète, c'est-à-dire l'horreur de ça pour moi est que les gens qui évoquent en permanence un passé douloureux pour justifier leur présent finissent par faire mentir ces passés-là. C'est-à-dire que ces passés-là deviennent, effectivement, c'est pas qu'ils s'effacent, mais il y a quelque chose qui devient corrompu de ces passés-là parce qu'on l'a trop exploité.
Pourrait presque être une fiction qu'on se raconte, même si
C'est une fiction.
ce que vous avez vécu, vous, a
C'est,
été
mais quand
réel,
même,
bien
c'est une
entendu,
fiction.
c'était, mais après, il y a une construction fictionnelle.
C'est absolument fictionnel. C'est absolument fictionnel. La construction, comme vous dites exactement, est fictionnelle parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que parce que j'ai souffert tout ça, après, toute ma vie va être structurée sur ces pôles de vérité. Ce qui fait pôle de vérité, de réel, comme on veut dire, non? Dans une situation, est une sorte de pôle de gravité dynamique et changeant, non? Et donc, je ne peux jamais, en tant qu'homme libre, en tant que quelqu'un qui est dans une démarche d'émancipation personnelle, sociale, je ne sais rien, non? Je ne peux jamais dire, dans toute situation, l'axe de vérité sera toujours le même, parce que ça, c'est construire une fiction mensongère, non? L'axe comme ça, des vérités, et comme effectivement un axe de gravité dynamique changeant. Et alors, quelqu'un peut avoir souffert X choses. Dans une autre situation, ce qu'il a souffert, ben voilà, ça fait partie d'un soubassement qui et ne pourra pas expliquer la situation présente. Non? Et ça, c'est dur parce que comme, il n'y a pas que la pathologie, il y a quand même une sorte de pathologie historique du monde judéo-chrétien dans lequel la souffrance est quelque chose de tellement valorisé, tellement important que celui qui a souffert 2000 ans, il est Dieu.
Parce que dans la théorie situationnelle, il s'agit de pouvoir se dire, étant donné ce qui est, qu'est-ce qu'on peut faire?
Absolument. La préoccupation, celle-ci, c'est-à-dire il y a quelque chose comme ça qui est. Je n'adhère pas tout à fait à ce qui serait la tradition stoïcienne pour une tas de choses, mais quand même, c'est vrai que quand ils disent, bon, c'est par rapport à quoi je ne peux rien faire, je dois voir comment je vais m'accommoder, et tout ce par rapport au que je, quoi je peux faire quelque chose, mais voilà par où passe ma vie. Hein? C'est-à-dire, alors, oui, déployer la puissance d'agir, non, déployer la puissance d'agir. Qui est cette puissance qui nous concatène à l'autre. La puissance d'agir n'est jamais la puissance du pouvoir, non, sur l'autre. La puissance d'agir est la puissance qui nous concatène à l'ensemble, hein, et qui comprend d'emblée que les liens et qui nous font, et ce qui nous fonde n'est pas optionnel, non.
J'aimerais qu'on conclue, Miguel Benassayac, sur ce terme, sur cette expression de théorie, de thérapie situationnelle. C'est vous qui l'avez théorisée, ça a été théorisé avec d'autres
Non,
penseurs.
non.
Est-ce que vous pouvez en faire une brève généalogie?
Si, les termes, les concepts, voilà, vaut ce qu'il vaut, c'est moi qui l'ai inventé il y a 15 ans, quand j'ai publié un bouquin qui s'appelle Les passions tristes, non? Je voulais nommer ça. Mais ça, c'est vraiment en ligne directe des, bon voilà, Wisswanger, même les chapitres de Sartre sur la psychanalyse existentielle, tout ce qui, bon ici Minkowska en France, non, qui était un phénoménologue aussi, Bon, je l'ai cité, David Cooper, tout. Alors, c'est toute une préoccupation, toute une branche de la psychanalyse, c'est pour ça que je continue à utiliser le titre de psychanalyste. Une branche de la psychanalyse qui aborde la conflictualité, la complexité, centrée sur la situation et la puissance d'agir. C'est-à-dire que, bon, c'est très spinoziste, non? Mais bon, si j'ai inventé les concepts, c'est aussi parce qu'il me semblait que c'était bien qu'il y ait de lancer l'idée de qu'il y ait une hypothèse, une proposition de comment faire autrement avec la complexité. Parce qu'il me semblait que la psychanalyse restait trop ancrée dans un passé. Les thérapies modulaires sont une fuite en avant très dangereuse. Et je cherche à voir comment est-ce qu'on peut penser une thérapie de la complexité organique qui ne tombe pas ni dans le rétroviseur ni dans la fuite en avant.
Merci beaucoup.
Merci à vous.